Bonjour à tous, frères et sœurs. Vous savez, on a commencé l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon... Il y en a qui disent l'Évangile de Jean. Oui, c'est bien, là, mais l'Évangile selon Jean. Parce que Jean, c'est l'Évangile qui vient de Dieu, là. C'est l'Évangile selon raconté selon Jean. Puis on a vu déjà la semaine passée l'introduction ou le prologue qu'on appelle... L'introduction de cet évangile-là, qui est un peu différent aux trois autres évangiles, ce qu'on appelle les synoptiques. Ce n'est pas synoptique, c'est juste trois là. Donc, nous avons quatre évangiles. Des fois, je mettrai un jour où j'ai dit les quatre évangiles, ce n'est pas quatre évangiles, les quatre évangiles. Hein, parce qu'on se trompe des fois avec les Pentateuques, c'est cinq, hein? C'est bon? OK. Vous connaissez bien votre Bible. Donc c'est ça, ça diffère un peu. Mais en fait, il raconte la même histoire, l'histoire de la réconciliation, j'appelle, l'histoire de l'Évangile, la réconciliation de Dieu avec les hommes. C'est lui qui a pris l'initiative. Donc Jean nous raconte cette histoire. Et nous l'avons vu, nous avons vu le prologue là, des vérités magnifiques concernant notre Sauveur Jésus la semaine passée. En ce qui concerne aussi son identité, on a parlé aussi de son œuvre, on a parlé de son ministère, sa personne, et c'est des choses qu'on va développer dans tout ce que l'Évangile des Jean va nous enseigner, mais le prologue, l'introduction, touche beaucoup de thèmes. Comme l'a dit Richard la semaine passée, on va développer un peu plus ces thèmes-là avec l'histoire de Jésus depuis le début de son ministère. Jean va reprendre encore tous ces thèmes, toutes ces choses qu'il a dit. Jean nous dit que Jésus, surtout au début, il commence par le premier verset que vous connaissez très bien. Au commencement était la parole de Dieu. Puis il s'en va au commencement. Le commencement, c'est-à-dire au commencement, vraiment, Jean fait référence à la création. Il parle de cette parole comme quoi qu'elle a tout créé. Il s'en va au début de la création. Mais dans ce qu'on a lu il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on a lu il y a 2 semaines? L'Apocalypse. Dans le dernier livre aussi, et c'est Jean aussi qui l'écrit, mais inspiré par le Saint-Esprit, il dit aussi dans l'Apocalypse 19:3, son nom est la parole. De qui il parle? De Jésus lui-même. Il dit son nom est la parole de Dieu. C'est ça son nom, 19:13. Donc, mais regardons quelques vérités mentionnées dans l'introduction concernant Jésus. Là. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est ça? Donc, au commencement était la parole et elle était avec Dieu, il dit. Et il dit, tout a été créé par elle, fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Encore là, la parole. Et la parole a été faite. Chair, humain, ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus. C'est Jésus lui-même. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. C'est Dieu même qui s'est fait homme. La parole a fait chair. Et il habita parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père, c'est le Fils de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'était la véritable lumière, nous dit Jean, qui en venant dans le monde éclaire tout homme et femme. Elle était dans le monde, la parole, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Vous connaissez la suite? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean revient dans son épître, dans son premier épître, il dit, mes enfants, vous êtes enfants de Dieu. Et vous l'êtes, il dit dans son épître, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru à la parole de Dieu. Nous avons cru à la parole faite chair. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ces vérités que nous avons entendues la semaine passée au niveau du prologue. Quel témoignage concernant Jésus nous trouvons juste dans ces premiers versets. Quel témoignage que Jean écrit concernant Jésus. Et dans l'Évangile selon Jean, le thème, si vous faites une recherche, là, le thème des témoignages, ce mot-là, il revient souvent, à peu près 44 fois, là, le mot témoignage. C'est important pour Jean. Ce thème est central. On va revenir beaucoup, même Jésus parle de son témoignage. Donc, ce mot témoignage apparaît fréquemment, soulignant que la foi en Jésus-Christ repose sur un témoignage fiable et divinement inspiré. C'est Jean qui a écrit ce témoignage, en fait. Là. Et le mot témoignage, c'est étrange. J'ai aimé le mot témoignage. Je cherchais l'original. Là. C'est vraiment en français, en français, en grec, que je prononce mal, peut-être c'est martyria. C'est de là qu'il sort le mot martyr. Donc, le mot martyr, là, c'est comme une francisation du mot témoignage. Donc, c'est ça. Et c'est à cause de ça, là, des témoignages qui ont exercé, ceux qui ont témoigné de leur foi. Et des fois, pas des fois, là, plusieurs fois au début de l'Église, ils ont donné sa vie à cause de cette vérité, à cause de témoigner, à cause de son témoignage, de leur témoignage qui concerne l'Évangile. Mais dans Jean, on va voir plusieurs témoignages. Le témoignage du Père, on va voir l'autorité divine de Jésus. Le Père témoigne de Jésus lui-même. Plusieurs même fois, deux fois, je crois qu'on voit dans l'Évangile selon Jean que le Père même exprime un témoignage à son Fils. Le témoignage des œuvres de Jésus, la preuve de ses actes aussi, le témoignage des Écritures même. L'Ancien Testament pointe vers Jésus. Le témoignage du Saint-Esprit, la confirmation intérieure. Jean y en parle. Le témoignage des disciples, le témoignage des hommes et des femmes qui confirment ou rejettent la vérité de Jésus. On va voir plusieurs témoignages. Ça vous vient à l'esprit? Le témoignage de la femme samaritaine, vous vous rappelez? Elle va témoigner de ce que Jésus a dit, a fait. Même le témoignage de l'auteur lui-même, Jean, là. À la fin du livre, il parle, qu'il donne, il rend ce témoignage de la vérité. Et le témoignage de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui, ce qu'on va étudier, ce qu'on va commencer, c'est ce que nous avons. Et nous avons lu, Jean a déjà parlé dans l'introduction de cet évangile. Il dit dans le verset 15, Jean lui a rendu témoignage. En parlant de qui? En parlant de Jésus, en parlant de cette parole-là. Jean lui a rendu témoignage. C'est bizarre. Et Jean, il parle des gens. Il y a beaucoup de gens dans Jean. Non, il y a juste deux gens, là. Mais il parle des gens. Jean, il parle des Jean-Baptiste. Mais c'est drôle, là, parce que c'est difficile, parce que Jean ne dit pas Jean-Baptiste. Il mentionne nulle part, il mentionne Jean-Baptiste. Il dit Jean. Et lui, Jean, celui qui écrit, il ne se mentionne même pas dans l'Évangile. Il dit le disciple que Jésus aimait. Vous allez voir, on va l'étudier, l'Évangile. Donc, il ne se nomme même pas Jean. Et en plus, tous les autres Évangiles parlent de Jean-Baptiste comme Jean-Baptiste. C'est un nom composé, mais il parle à cause peut-être de ce qu'il faisait, il baptisait. Donc, c'est pour ça Jean-Baptiste. Mais Jean, il ne veut pas centrer vraiment sur ce qu'il faisait, faire en face ce que faisait Jean-Baptiste, non, mais plutôt dans son témoignage. Peut-être c'est pour ça qu'il nomme pas Jean-Baptiste. Donc, c'est ce texte-là qu'on va étudier. Le texte que nous allons étudier concerne ce témoignage puissant de Jean-Baptiste. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à lire la suite des versets de Jean, chapitre 1, 19 à 28. C'est bon? Jean, chapitre 1, 19 à 28. On va juste aller au verset 28 aujourd'hui. C'est bon? Il dit, voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il confessa, sans le nier, il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie ? » Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ce qu'ils nous ont envoyé. Que dis-tu de toi-même? Et il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Comme a dit le prophète Ésaïe, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent encore, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il y en a un qui vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » On va arrêter là. Ça, c'est une partie du témoignage, en fait, de Jean-Baptiste. Et c'est qui, c'est Jean-Baptiste? Dans cet évangile, comme j'ai dit tantôt, il est nommé seulement Jean. Et Jean, l'évangéliste, ne nous donne pas des détails sur l'origine de Jean-Baptiste. Il se concentre davantage sur son témoignage. Et ce témoignage, il nous le présente en trois parties. Et les autres, par contre, les autres évangiles nous donnent beaucoup plus de détails. Si vous allez lire même le début de l'évangile de Luc, vous allez voir, ou selon Luc, vous allez voir que dans les chapitres 1, déjà en partant, on voit la naissance de Jean-Baptiste, mais même là, il annonce la naissance à ses parents. Qui sont ses parents? Question d'examen, Zacharie et Élisabeth, c'est ça. Donc, c'est ça, on voit des détails, mais ici, Jean, l'évangéliste, se concentre plus sur son témoignage. Donc, mais dans cet évangile, il nous présente ce témoignage en trois parties. Donc, il le mentionne en trois jours consécutifs. Vous allez voir là, vous allez lire le chapitre 1 et 2, et vous allez voir qu'il y a des jours là qui se suivent. Et dans les trois prochains jours, on va voir trois différents témoignages de gens. La semaine prochaine, on va voir un témoignage des gens concernant Jésus lui-même. Donc, le premier jour, une délégation venue de Jérusalem l'interroge. C'est ce qu'on vient de lire. Et il témoigne de lui-même et de Jésus, Jean, là, Jean-Baptiste. Le deuxième jour, Jean témoigne publiquement de Jésus. Ce qu'on a lu tantôt, on a chanté tantôt même. Jésus, l'agneau de Dieu. C'est ce qu'il va dire par rapport à Jésus. Et le troisième, et ça tombe bien, hein, parce que dimanche prochain, nous allons célébrer des baptêmes. Et on va parler de ce témoignage. Et dimanche prochain, on a plusieurs témoignages. On a combien de témoignages? 13 même, je crois. Hein, 13 témoignages. On va 11, 12, OK, mais ça peut descendre à 11, mais minimum 11 témoignages nous allons avoir. Témoignages des gens qui vont se faire baptiser, là. Témoignage puissant de la grâce de Dieu dans leur vie. Le troisième jour, dans l'évangile selon Jean, il est question de deux de ses disciples, des disciples de Jean, qui suivent Jésus après avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste. Donc, on va voir ces trois témoignages, mais aujourd'hui, on va juste voir la première partie. Rappelons-nous que l'auteur de cet évangile nous dit que Jean-Baptiste, dans les premiers versets de cet évangile, il nous parle de ce Jean-Baptiste dans les premiers versets 6, 7 et 15. Il dit, il y eut un homme envoyé par Dieu, okay, un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il rajoute même, là, il n'était pas la lumière lui, il était juste venu rendre témoignage de la lumière. Jean lui a rendu témoignage. C'est crié. C'est lui donc, j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. C'est ce qu'on a lu dans l'introduction. Et l'introduit, Jean, vous voyez, il a introduit des thèmes et après il va les développer. Justement, il va développer maintenant en ce qui concerne le témoignage de Jean-Baptiste. Le Nouveau Testament nous présente ce Jean-Baptiste comme un témoin exemplaire. Okay, un témoin exemplaire de Jésus, obéissant, courageux, un témoin honnête, un témoin zélé. C'est pense que vous pouvez nommer d'autres encore. Vous avez lu les autres évangiles, vous connaissez déjà la vie un peu des Jean-Baptiste. Vous pouvez nommer d'autres caractéristiques des gens comme témoin de Jésus. Mais dans les versets que nous venons de lire, nous pouvons observer au moins trois traits de caractère supplémentaires à imiter chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un témoin fidèle à la vérité, versets 20 à 21. Jean-Baptiste est un témoin des convictions, ça a rapport avec sa foi, qui il est, 22 à 23. Et Jean-Baptiste est un témoin humble. Et c'est une caractéristique qui ressort beaucoup chez Jean-Baptiste. Humble, versets 24 à 27. On va encore voir d'autres caractéristiques. Et on va voir des caractéristiques qui se répètent aussi en ce qui concerne Jean. Mais le témoignage de Jean-Baptiste occupe une place essentielle dans l'Évangile selon Jean. Son rôle n'est pas mettre l'accent sur lui-même, sur Jean-Baptiste, mais de désigner Jésus comme le Messie. C'est lui, le Messie promis. Et dans ce passage, nous voyons un Jean-Baptiste en témoin fidèle, qui remplit sa mission avec vérité, conviction et humilité. Encore là, dans l'Apocalypse, même Jésus est appelé un témoin. C'est lui le témoin fidèle. Dans le verset 19, on a lu tantôt que l'auteur de l'Évangile nous décrit les circonstances de ce témoignage-là. Rapidement, il nous dit, en disant, voici le témoignage des gens. Il nous présente là, voici le témoignage des gens. Il veut qu'on sache, qu'on connaisse ce témoignage-là. Voici le témoignage. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour le questionner. Hey, c'est qui ces sacrificateurs et Lévites? C'est la crème de la crème. Eux, ils connaissent très bien quoi? La loi. Ils connaissent bien les prophètes, là. Ils envoient. Pourquoi? Pour questionner ces gens-là. Et les Juifs, dans l'Évangile selon Jean, reviennent souvent ce mot-là, les Juifs. De façon générale, dans cet Évangile, fait allusion aux dirigeants qui s'opposent fortement, même au peuple qui s'oppose fortement au ministère de Jésus. Même à la fin, avant la crucifixion, c'est les Juifs. Jean parle beaucoup des Juifs qui sont à l'encontre. Mais il désigne aussi parfois le peuple tel quel, le peuple de Dieu. Donc ces Juifs-là, ils envoient cette délégation. Pourquoi vous pensez qu'il envoie cette génération? Jean ne le dit pas, mais on suppose, c'est sous-entendu, que Jean-Baptiste était très populaire. Il est devenu très populaire et influent. Influent pour le peuple. Tout ce qui touche le peuple, les Juifs, les dirigeants, vous le connaissez, vous connaissez l'histoire. Ils sont très jaloux, donc ils vont aller voir ce qui arrive avec ces gens-là. Il envoie cette délégation. Par contre, nous lisons dans Marc 1, 5, il dit, « Tous les pays de la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. » Auprès de qui? Auprès de Jean-Baptiste. « Tout le pays de Judée, il dit, Marc 1, 5. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. » C'est de là qu'il vient son nom, Jean-Baptiste. Il baptisait. Et pour les Juifs, pour les dirigeants qui contrôlaient le peuple, littéralement, ils voyaient un Jean-Baptiste en danger. Ils sont interpellés. Ils se sentent menacés. Ils envoient des sacrificateurs et des Lévites, et qui connaissaient très bien la loi. Donc, ces gens-là, ces Jean-Baptiste, dérangeaient les autorités. Et le peuple croyait qu'il était le Messie. Peut-être il y en avait qui disaient, « Oh, bien, c'est lui peut-être le Messie. » Oh, il y avait des nouvelles qui circulaient comme quoi Jean-Baptiste était vraiment le Messie. Peut-être il croyait. Mais en tout cas, c'est ce que Jean laisse entendre là, avec la question qu'il lui pose. Mais dans Luc 3:5, on lit clairement, comme le peuple était dans l'attente, dans l'attente, attendre, excusez-moi mon français, là. Comme le peuple était dans l'attente et que tout se demandait intérieurement si Jean n'était pas le Christ, c'est-à-dire le Messie. Donc pour eux, peut-être c'était lui le Messie. Mais de quelle attente il parle, Luc, dans son évangile? C'est quand même important de savoir que l'attente qu'avaient les Juifs, c'est ce qu'on appelle l'attente messianique. L'attente d'un Messie était l'espérance du peuple juif. Un Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, après le dernier prophète Malachi, il y eut environ à peu près 400 ans de silence au niveau prophétique. Là. Okay? Quand le peuple retournait de l'exil de Babylone, vous vous rappelez, on a étudié à un moment donné Esdras et Néhémie. Okay? Oui, Esdras et Néhémie, on a étudié, c'est le peuple qui revient de l'exil. Là. Et après, ce sont passés à peu près 300-400 ans là, dans le silence. Il n'y a pas eu de prophète. Ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Là. Et cette attente s'est intensifiée. Et il a pris plusieurs formes. Donc, les gens pensaient qu'il allait avoir un libérateur politique, le Messie qui allait délivrer Israël de l'oppression romaine, un réformateur, même religieux. Certains attendaient la purification du peuple et du temple, mais aussi un accomplissement prophétique, dont les écrits de Daniel d'Ésaïe alimentaient l'espérance d'un roi davidique envoyé par Dieu. Donc, le peuple se demandait si Jean-Baptiste était vraiment le Messie, ce Messie, le Christ. C'est la question de cette délégation des sacrificateurs et des Lévites qui pose à Jean. Donc, là, le verset 20 dit, « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa, il déclara, sans le nier, il confessa, et Jean il répète plusieurs fois, là, il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ, » dit Jean-Baptiste. Il est clair, là. La réponse est courte, mais claire. Il dit, « Je ne suis pas le Christ. » Mais il pose encore une autre question dans le verset 21. Et ils lui demandèrent donc, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Élie, le prophète, pourquoi il demande, il pose des questions, pourquoi Élie? Donc, le ministère des gens était semblable à celui de, vous connaissez l'histoire du prophète Élie dans le livre des Rois, semblable à celui d'Élie comme un prophète qui cherchait à ramener les gens à Dieu. Même sa ressemblance était étonnante avec Jean-Baptiste. Dans Matthieu et dans Marc, on lit que rapporte que Jean portait une tunique en poil de chameau et une ceinture de cuir, un peu semblable à Élie. Ça, on voit dans 2 Rois 1-8. Mais il y a une chose encore plus claire. Là, le prophète Malachi avait annoncé qu'Élie viendrait avant la venue du Messie. Nous lisons dans Malachi 3-23 ou dans d'autres versions 4-5. Il dit, « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, il dit. Je vous enverrai le prophète Élie avant de la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il dit, avant que le Messie arrive, je vais vous envoyer, il dit, le prophète Élie. Vous savez, Élie était mort. Non, hein? Élie est parti en char. Dans un char de feu, là, je crois. Pas un char, là. Il est parti dans un char, là, dans un tourbillon, là. Qui est parti avec Dieu aussi, comme ça, de la sorte? Enoch aussi, hein? Non? C'est particulier, là, le prophète Élie. Je ne sais pas pourquoi Dieu est venu le chercher comme ça. Mais donc, peut-être les Juifs pensaient qu'il allait revenir. Il parlait de ça, vraiment, une réincarnation d'Élie. Mais regardons ce que Jésus dit des gens. De Jean-Baptiste. Mais je vous ai dit, ça c'est dans Matthieu 17, là. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. C'est Jésus qui dit. Je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Là, peut-être il parle de cette, à l'époque là, que Jean est interpellé. Et les disciples, il dit, comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Rappelons-nous encore que l'ange annonce à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, concernant sa naissance, l'ange dit, il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Un peu comme Malachie, hein? Mais il rajoute, cet ange-là, il dit, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ce qu'il dit, l'ange. En tout cas, c'est ce que Jésus a voulu dire en ce qui concerne Jean-Baptiste. Élie n'était pas la réincarnation de Jean-Baptiste. Pour cette raison que plusieurs peut-être pensaient que Jean-Baptiste était vraiment Élie en personne. Et comme ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il répond Jean-Baptiste? Il se casse pas la tête, il dit pas, non, écoutez, je vais vous expliquer là. Malachie, un peu comme je fais maintenant, Malachie a dit telle chose. Non, et Jean, il ne prend pas de temps de faire ça là. Qui est allé le voir? Ils sont allés le voir, les sacrificateurs et les lévites. C'est vrai, les pharisiens, là. Plus tard on va voir ça. Et ils sont censés de quoi, ces deux? De connaître bien les Écritures, non? Donc, Jean-Baptiste ne prend pas le temps de leur expliquer. Écoute, comment ils répondent? Ils répondent, la réponse de Jean-Baptiste à cette question est encore plus courte que la première. Il dit... Je ne le suis pas. C'est tout. Mais il se fait encore poser une autre question. Ben voilà, tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas Élie. Es-tu le prophète? C'est qui ce prophète? De quoi il parle, ces sacrificateurs et lévites? Rappelons-nous, encore là, rappelons-nous ce que Jésus dit à propos de Jean-Baptiste. Okay? Dans Matthieu 11, 9 et 13, Jésus dit, « Mais, qu'êtes-vous allé voir un prophète? » Il dit, « Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Jusqu'à qui? Jusqu'à Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Il était baptiste aussi, en tout cas. Jean-Baptiste, OK? Ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jésus dit qu'il était un prophète. Mais encore là, dans Zacharie, le père de Jean, mention, quand il y a une cantique par rapport à en reconnaissance à Dieu, il déclare dans Luc 2, 76, il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, » il dit. En ce qui concerne Jean-Baptiste, « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voix. » Donc, en quelque sorte, Jean-Baptiste était un prophète. Mais sa mission prophétique était particulière. Là. Il annonçait la venue immédiate du Messie, ce qu'aucun prophète n'avait fait auparavant. Donc, la question était probablement posée concernant le prophète qui était attendu, selon ce qui est annoncé dans Deutéronome 18:15. Qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 18:15, l'Éternel, ton Dieu, il dit à Moïse, là, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Peut-être c'est là qu'ils sont en train de dire, ce prophète-là qui va venir. La question qu'il pose, il dit, es-tu le prophète? C'est ça qu'il est posé comme question. Les Juifs, ils ne posent pas la question, « Es-tu un prophète? » Il dit, « Es-tu le prophète, selon Deutéronome? » Et la réponse de Jean-Baptiste était encore plus courte que la douzième. Qu'est-ce qu'il dit? « Non. » Tout court, c'est non. Je ne suis pas non plus le prophète que vous pensez que je suis. Il ne voulait pas parler de lui-même. Ça se voit, hein, car son rôle consistait à diriger. Et c'est ce que Jean ressort dans cet évangile-là, consistait à diriger l'attention vers un autre. On voit que Jean répond avec la vérité. Il est un témoin authentique de Jésus-Christ. Il est un témoin intègre. J'aime beaucoup ce passage de Proverbes 14, 5 qui dit, « Le témoin fidèle ne ment pas, mais les faux témoins préfèrent des mensonges. » Le témoin fidèle ne ment pas. Ces caractéristiques de Jean-Baptiste étaient un vrai, authentique. Il ne mentait pas, il disait la vérité. Et la Bible, frères et sœurs, nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes des témoins de Christ. Où on trouve ça? On parle beaucoup lors du culte de mission. Dans Actes 1, 8, c'est ça? Il parle aux disciples, mais ça va avec nous aussi, celle-là. Vous serez mes témoins. Donc, notre témoignage doit être, frères et sœurs, doit être vrai. Et nous devons marcher, comme Jean nous exhorte, dans la vérité, selon la vérité. Donc, notre témoignage est important pour que d'autres puissent connaître la vérité de l'Évangile. Regardons ce que le témoignage de Jean-Baptiste a produit plus tard. Regardez là, dans Jean 10, 41. « Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun... » Il venait à Jésus là. « Jean n'a fait aucun miracle. » Mais tout ce que Jean a dit, il parle de Jean-Baptiste, a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Regardez ce témoignage de Jean, parce qu'il avait parlé avec la vérité. Tout ce qu'il avait dit concernant Jésus était vrai. Donc, il était un témoin authentique, sincère. C'est un bon trait de caractère à imiter. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. La parole nous dit cela. Et nous devons parler avec vérité. Si quelqu'un nous demande, es-tu un témoin de Jésus? Oui, je le suis, c'est tout. Puis là, on peut en profiter de parler de l'Évangile. À moins que quelqu'un vous demande, est-ce que tu es chrétien? Oui, des fois. L'es-tu ou tu ne l'es pas? Je suis chrétien. Et c'est là que des fois, on ouvre des ponts pour parler de notre foi en ce qui concerne Jésus. Mais Jean-Baptiste aussi est un témoin de conviction, de foi. Il savait qu'il n'était pas. Okay? Il savait ça. C'est bizarre, là. Il savait qu'il n'était pas, mais surtout, il savait qui il était. Versets 22 à 23. Un témoin de conviction. Ils lui dirent alors, là, ils ont posé trois questions, la réponse a été non. Là, surtout la dernière, là, c'était... Ils lui dirent encore, ok, donc, c'était pas le... En tout cas, je vais le lire. Là. Ils dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Maintenant, qui dis-tu de toi-même? Et là, il donne une réponse assez longue, là. Okay? Parce qu'il veut introduire qui est, mais qui est par rapport à qui? Pas à lui-même, là. Par rapport à qui? À Jésus. Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit Jean-Baptiste, il cite le prophète Ésaïe. Comme dit le prophète Ésaïe. Il affirme qu'un prophète viendra pour annoncer la venue du Christ. En d'autres termes, Jean déclare être, comme on l'a vu la semaine passée, était le précurseur annoncé, celui qui a annoncé la venue du Messie. Il ne se présente pas comme un grand homme. Okay? Je suis le grand prophète qui vient annoncer la venue du Seigneur. Non, il dit, je suis quoi? La voix qui crie dans le désert. C'est selon Ésaïe. Il ne se présente pas comme quelqu'un de très important dans le but de s'attirer des louanges ou l'admiration même, mais comme une voix non destinée à être vue. Une voix, on ne la voit pas, hein, mais seulement à être entendue. Je suis la voix. Jean était la voix, mais Christ était la parole. Donc le message de Jean était à planisser le chemin du Seigneur en lit. En d'autres termes, le Messie vient là. Débarrassez-vous de tout ce qui, dans votre vie, pourrait empêcher de le recevoir. Et il le dit en disant, répentez-vous, il dit, répentez-vous de vos péchés, afin qu'il puisse venir régner en vous. Répentez-vous. Jean-Baptiste est direct hein, dans son message là. Il était direct. Répentez-vous. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes ambassadeurs, OK, pour Christ, comme si Dieu exhortait, comme si Dieu parlait à travers nous. J'aime beaucoup ce verset. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5. Ou même l'apôtre Pierre, il dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. C'est beau ça? C'est pas beau ça, comme je dis d'habitude? C'est beau ça. On est un peuple, une race élue. Mais dans quel but? Afin d'annoncer, de témoigner les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, frères et sœurs, qui êtes-vous? Êtes-vous un témoin de Christ? L'êtes-vous? Êtes-vous convaincu de votre identité en Christ? Êtes-vous convaincu de votre appel? Sachez que nous sommes des témoins. Et un témoin doit quoi faire? Parler, témoigner de sa foi. Je le suis. Jean savait avec conviction qui il était. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé, en fait. Il ne se laissait pas intimider par les autorités et l'opposition non plus. Il était un véritable témoin de Christ, convaincu de son appel, de sa mission. Mais regardons encore un dernier trait de caractère de Jean-Baptiste. Il était humble. Regardons du verset 24 à 27, chapitre 1. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, comme mon frère l'a mentionné tantôt, étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « OK, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Ceux qui avaient été envoyés, c'était des pharisiens. Pourtant, tantôt on nous a dit que c'était des sacrificateurs et des lévites. Est-ce qu'il y avait des sacrificateurs et des lévites parmi les pharisiens? Probablement, oui. Mais peut-être les pharisiens se sont rajoutés après, OK, pour poser encore des questions. Parce qu'il y en a qui pensent ça, probablement. Mais il dit, et d'ailleurs, c'est la première fois que Jean introduit les pharisiens dans son évangile. Okay? Puis les pharisiens, là, vous allez le voir. Au moins, il y a 20 fois qu'ils sont mentionnés, ou même plus. Combien de chapitres a l'évangile selon Jean? 21. C'est ça? Au moins une fois par chapitre. Ces gens-là, vous le connaissez, vous le savez, ils se sont toujours opposés au ministère de Jésus, jusqu'à la fin. Donc, les pharisiens étaient un groupe des Juifs très rigides qui se vantaient de bien connaître la loi et de respecter à moindre détail la loi. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux étaient des hypocrites, cherchant à paraître pieux, humbles, en vivant dans le péché. Ils étaient des vrais pharisiens. Quoique, quand on dit pharisien, on comprend très, très, très vite. On n'aime pas qu'on nous traite des pharisiens. Hein? On comprend très vite. Là. Non, en tout cas, c'était des gens qui se croyaient justes, mais ils n'étaient pas justes. Ils n'étaient pas pieux. Et ces pharisiens-là, ils voulaient savoir d'où venait l'autorité de Jean-Baptiste. Car ils n'appartenaient pas à leur groupe là, important selon eux, ou à un autre groupe important. Donc, ils se demandaient pourquoi, donc lui, il baptise. Le fait, ce n'est pas juste de baptiser, là. Le fait, c'est de pourquoi il fait... Baptiser, c'était quelque chose, peut-être dans le temps, il y avait des prosélytes hein, okay, qui venaient, qui s'est convertis au judaïsme, des gens qui avaient une certaine autorité, baptiser ces prosélytes, ces gens-là qui voulaient devenir juifs. Mais ces juifs-là, ces pharisiens, ils voulaient savoir pourquoi, à quelle autorité tu fais ça. Ils voulaient vraiment savoir qui était. Donc, étant donné que tu ne possèdes aucun titre officiel, pourquoi tu baptises? Pourquoi baptises-tu? Et Jean-Baptiste désirait que personne ne le prenne pour quelqu'un important. Là. Son rôle était simplement de quoi? De préparer les hommes à la venue du Messie, de Christ. Chaque fois que ses auditeurs se repentaient de leurs péchés, il les baptisait de l'eau pour symboliser leur changement intérieur. Mais il disait là, il dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et dit ça aux pharisiens, faisant allusion à Jésus. En réalité, Jean dit aux pharisiens, ne me prenez pas pour un grand homme là. Celui auquel vous devez prêter attention, c'est le Seigneur, c'est le Messie qui vient. Mais vous ne le connaissez pas, il disait. Jean ne se considérait pas digne même d'accomplir pour Christ une tâche si humble que comme celle de attacher ses souliers et ses sandales. Jean reste humble malgré ce ministère important qu'il avait. De préparer la venue du Messie. Il restait humble. C'est un bon trait de caractère pour nous aussi, que nous sommes témoins de Jésus. Vous connaissez très, très bien une phrase de Jean plus tard, qu'il va le dire dans le chapitre 3. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. On voit très clairement ce trait de caractère de Jean-Baptiste, il était humble. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à rester humbles malgré notre statut, malgré nos ministères importants que peut-être nous pensons que nous avons. Ou même le statut que nous avons, nous sommes quoi? Enfants de Dieu, du Créateur. Nous sommes ambassadeurs de Christ, témoins de Jésus. Savez-vous? Pierre, il nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre, à parler de votre foi, contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais il dit, comment le faire? Hey, écoute, je suis pasteur de l'église de Rosemont, là, je t'ai dit, là, t'es dans le champ, répands-toi. Non, mais faites-le comment? Avec douceur et crainte, humblement. Malgré l'impact de son ministère, Jean ne cherche pas à s'élever. Il reconnaît sa petitesse devant Jésus. Et cette attitude-là de Jean-Baptiste est un modèle pour nous. Un vrai témoin s'efface devant Christ. Trop souvent, nous sommes, frères et sœurs, tentés de mettre l'accent sur nous-mêmes. Mais un témoin humble oriente toujours le regard vers qui? Vers Christ. Nous devons tourner, faire que le regard se tourne vers Jésus, vers le Sauveur. Quel puissant témoignage de Jean-Baptiste. Quel exemple aussi. Il répond clairement à toutes les questions qui lui sont posées. Et dans chacune des questions, des réponses, là, se révèle un trait de caractère d'un témoin fidèle de Dieu. Il est un témoin authentique. Il parle selon la vérité. Il dit la vérité, là on l'a vu. Il est un témoin humble, malgré sa popularité, l'importance de son ministère. Mais surtout, je l'ai déjà mentionné avant, il savait ce qu'il n'était pas, mais surtout il savait qui il était. J'aimerais vous poser une question. Qui vous êtes? Êtes-vous certain de qui vous êtes? Pour Dieu? Oui, gloire à Dieu. Mais si vous ne savez pas, si vous avez un doute, vous savez, le Seigneur arrange toutes choses. Si vous êtes là pour la première fois, ou vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas la vérité, qui vous êtes? Vous pouvez dire, je suis un enfant de Dieu. Dieu peut vous donner cette assurance-là. Il faut juste vous repentir de vos péchés. Mais vous pouvez me dire, mais je n'ai rien fait de mal dans ma vie, j'ai toujours été correct. Et la parole de Dieu dit juste, le fait d'ignorer Dieu, c'est un péché devant Dieu. Êtes-vous un enfant de Dieu? Si vous ne voulez pas, ne partez pas, s'il vous plaît, sans avoir cette assurance-là. Un jour, Jésus a rendu un témoignage concernant Jean-Baptiste. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de voir ce passage-là dans Matthieu 11. Je ne veux pas vous dire d'aller voir, OK? Chez vous, là, allez voir. Des fois, je parle vite, Matthieu 6 à 11. C'est ça? 6 à 11. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur YouTube, là, puis après, vous allez voir. Après, tout est enregistré, hein? OK? Donc, un jour, Jésus a rendu témoignage. Il dit, Jésus s'est mis à dire aux foules, à propos des gens, qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir, il dit, un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qui êtes-vous donc allé voir? Voir un prophète? Et Jésus dit, oui, vous dis-je, et plus même qu'un prophète. Car celui donc, il est écrit, voici, j'envoie un messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il s'en est pas levé des plus grands que Jean-Baptiste. Voyez ce témoignage de Jésus concernant Jean-Baptiste. Mais quelqu'un va me dire, mais Ronald, lis la suite. Oui, c'est vrai. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean-Baptiste vit dans une période de transition, hein? OK, de l'ancienne loi, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et ceux qui sont dans la nouvelle alliance, là, ils ont goûté de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ils ont connu la vérité. Mais il dit, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, ceux qui sont nés d'une femme. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est un peu le principe, hein, d'être humble. Je crois qu'en lisant ces paroles, là, Jean ne les a pas lues, le Baptiste ne l'a pas lu, là, mais en lisant, il correct avec ça, il dit, oh, ben, c'est vrai, vous êtes plus grand que moi. Donc, vous êtes frères et sœurs. Je suis un témoin, Jésus. Vous êtes témoin. Témoin Nicole. Témoin. J'ai oublié le nom. Témoin Pedro, là. Témoin. Nous sommes tous des témoins, Jésus. Maintenant, vous voyez le témoignage qu'il fait, Jésus, en ce qui concerne Jean. Que pourrait dire Jésus par rapport à moi ou par rapport à vous? Quel témoignage il pourrait dire ou donner? Sommes-nous des vrais témoins, comme Jean-Baptiste? Nous témoignons de Christ avec fidélité? Nous sommes tous appelés à être des témoins fidèles de Jésus. Dans notre entourage, peu importe notre position ou nos capacités, Dieu nous équipe pour cette mission, être témoins. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous aide à témoigner avec vérité, conviction, humilité, et que par son Saint-Esprit, nous puissions refléter Christ dans notre vie et annoncer son nom avec fidélité, avec conviction, avec vérité. Que notre vie et nos paroles puissent, comme Jean-Baptiste, pointer toujours vers Christ. Que notre vie et nos paroles puissent pointer toujours vers l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du témoignage de Jean-Baptiste. Amen.